écoutez KTO Radio, il est 4 heures. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Contre un plus fort vouloir, mal combat un autre vouloir. Ainsi, contre ce qui me plaisait pour lui plaire, je retirais de l'eau l'éponge non rassasiée. Je m'avançais, et mon guide s'avança par l'espace libre le long de la rampe, comme on va par un étroit mur crénelé, car la jante qui, par les yeux, goutte à goutte, verse le mal dont tout le monde est plein, s'approchait trop en dehors. Maudite sois-tu, antique louve, qui, plus que toutes les autres bêtes, abonde de proie pour ta faim sans fond. Ô ciel, dont on paraît croire que les mouvements changent la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par lequel s'en ira celle-ci? Nous allions à pas lents et rares, et j'étais attentif aux ombres que j'entendais pitoyablement pleurer et se plaindre, lorsque, de fortune, jouit douce Marie devant nous, appelée au milieu de ses pleurs, comme la femme en travail d'enfant, et ajoutée « Aussi pauvre tu fus, qu'on le peut voir par le réduit où tu déposas ton fruit saint. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabricius, tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. » Ces paroles tant me plurent que je m'avançais pour connaître l'esprit de qui elle paraissait venir. Il parlait aussi de la largesse que fit Nicolas aux jeunes vierges pour conserver pur leur honneur. « Ô âme qui si bien discours, dis-moi qui tu fus, dis-je, et pourquoi seul tu renouvelles ces dignes louanges. Tes paroles ne seront point sans récompense si je reviens accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers son terme. » Et lui, je te parlerai, non pour confort que j'attende de là, mais à cause de la grâce singulière qui reluit en moi avant que tu sois mort. Je fus la racine de la mauvaise plante, qui tellement de son ombre couvre la terre chrétienne, que rarement s'y cueille un bon fruit. Si Douai, Gand, Lille et Bruges pouvaient, prompte en serait la vengeance, et je la demande à celui qui juge tout. Je fus appelé là Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui nouvellement est régie la France. Je fus fils d'un boucher de Paris. Lorsque les anciens rois vinrent à manquer tous, hors un qui avait endossé la robe grise, je me trouvais ayant en main le frein du gouvernement du royaume, et si puissant par de nouveaux acquêts, et entouré de tant d'amis, qu'à la couronne, veuve fut promue la tête de mon fils, par qui de cela commença la race exécrable. Jusqu'à ce que la grande dot de Provence eût à mon sang ôté toute pudeur, peu il valait, mais du moins il ne faisait pas de mal. Alors, par la force et le mensonge, commencèrent leurs rapines. Ensuite, pour amende, ils prirent le Pontois, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie, et pour amende fit de Coradin une victime. Et au ciel renvoya Thomas pour amende. Peu après, je vois un temps où de France est attiré un nouveau Charles, pour que mieux soit connu et lui et les siens. Il en sort sans armée, seul avec la lance, avec laquelle jouta Judas, et si bien que de Florence elle ouvre le flanc. Par là, point de terre, il ne gagnera, mais péché et honte, pour lui d'autant plus pesant que plus léger lui semblera un pareil dommage. L'autre qui sortit ensuite, je le vois pris sur un navire vendre sa fille et en trafiquer comme les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, quoi de plus peux-tu faire des miens, après qu'à toi tellement tu les as attirés que point ils n'ont souci de leur propre chair. Pour que moindre paraisse le mal futur et le mal fait, je vois dans Alania entrer le Lys et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois moquer une autre fois, je le vois de rechef abreuvé de vinaigre et de fiel et mis à mort entre deux voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel que, non assouvi encore, il porte sans rescrit ses voiles avides dans le temple. Ô mon Seigneur, quand joyeux verrai-je la vengeance cachée dont jouit en secret ta colère? Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit-Saint, sur quoi pour t'enquérir tu t'es tourné vers moi, nous le redisons dans nos prières pendant que le jour dure. Mais quand vient la nuit, nos voix prennent un ton contraire. Alors nous parlons de Pygmalion, que traître et voleur et parricide fit l'insatiable désir de l'or, et de la misère de l'avare Midas, suite de l'avide demande qui doit le rendre à jamais un objet de risée. Puis chacun se rappelle l'insensé Achan, comment il déroba le butin, et il semble qu'ici encore le châtie la colère de Josué. Ensuite, nous accusons Saphira avec son mari, aux ruades que reçut Héliodore, nous applaudissons, et tout le mont roule dans l'infamie Polymnestor qui tua Polydore. Enfin, ici l'on crie, ô Crassus, dis-nous, puisque tu le sais, quel goût a l'or ? L'un parle haut et l'autre bas, selon le sentiment qui nous excite à parler avec plus ou moins de véhémence. Cependant, à écouter le bien que le jour on rappelle, je n'étais pas seul. Mais là, au prêtre était une personne qui n'élevait pas la voix. Nous avions quitté cet esprit et nous tâchions de gagner du chemin autant que nos forces nous le permettaient lorsque je sentis trembler le mont comme une chose qui tombe, d'où je fus pris d'un frisson semblable à celui que saisit l'homme qu'on mène à la mort. Si fortement ne trembla pas Délos, avant que Latone y eût fait le nid où elle enfanta les deux yeux du ciel. Puis retentit de toutes parts un cri tel que le maître se tourna vers moi disant « Ne crains rien, pendant que je te guide. » « Gloria in excelsis Deo », tous disaient, selon que je le compris, lorsque de plus près je pus entendre les cris. Nous demeurâmes immobiles et en suspens, comme les pasteurs qui les premiers ouïrent ce chant, jusqu'à ce que le tremblement ayant cessé, le chant aussi cessa. Puis nous reprîmes notre route sainte, regardant les ombres qui gisaient à terre et qui déjà étaient retournées aux pleurs accoutumées. Contre aucune ignorance qui me rendit désireux de savoir, je n'eus jamais si grand combat, si ma mémoire en cela n'erre pas, que n'était celui qu'en ma pensée il me semblait alors avoir, et à cause de la hâte, je n'osais demander, et là par moi-même je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais timide et pensif. Chant 21e. La soif naturelle qu'apaise seule l'eau qu'en grâce demanda la pauvre femme samaritaine me tourmentait. Et par la route, embarrassé, me hâtant à la suite de mon guide, j'étais ému de la juste vengeance quand voilà que, comme en Luc il est écrit que le Christ sortit du sépulcre, apparut à deux de ses disciples en voyage, nous apparut une ombre. Derrière nous, elle venait, regardant la troupe gisante à ses pieds. Nous ne l'avions point aperçue, de sorte que la première, elle parla, disant « Mes frères, que Dieu vous donne la paix !» Soudain, nous nous retournâmes, et Virgile lui rendit le salut qui convenait au sien. Puis il commença que dans l'assemblée bienheureuse t'introduise en paix le juste juge qui me relègue dans un éternel exil. Si vous êtes, dit-elle, en continuant d'aller des ombres que Dieu ne daigne pas admettre là-haut, qui vous a ainsi conduit par cet escalier? Et mon maître, si tu regardes les signes que porte celui-ci et que l'ange a tracés, bien verras-tu qu'avec les bons il doit régner. Mais parce que celle qui jour et nuit file n'avait pas encore épuisé la quenouille que Clotho dispose et mesure pour chacun, son âme, sœur de la tienne et de la mienne, venant là-haut, n'y pouvait venir seule, ne voyant pas comme nous voyons. Ce pourquoi je fus tiré de la large gueule de l'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le pourra mon savoir. Mais dis-nous, si tu le sais, pourquoi de telles secousses ont ébranlé le mont, et pourquoi tous ensemble ont paru jeter le même cri jusqu'à son humide pied. Ainsi demandant, il toucha tellement le but de mon désir que par l'espérance, un peu apaisée fut ma soif. Celui-là commença. Point n'est-ce une chose qui trouble l'ordre de la pieuse montagne ou qui soit inaccoutumée. Elle est exempte de toute altération, de ce qu'en soi le ciel reçoit d'elle cela peut venir et non d'autre chose, car ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni bruine ne tombe au-dessus du court escalier des 3 degrés. Ne s'y voit aucun nuage épais ou léger, ni éclair, ni la fille de Thomas qui, là, souvent change de contrée. Nulle sèche vapeur ne monte plus haut que le sommet des 3 degrés dont je parlais ou le vicaire de pierre à ses pieds. Peut-être plus bas tremble-t-elle un peu ou beaucoup, mais par un vent qui dans la terre se cache, je ne sais comme ici haut le mont ne tremble jamais. Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, de sorte qu'elle monte, ou se meuve pour monter, et se crie la seconde. De la pureté, le seul vouloir fait preuve. L'âme tout à coup se sentant libre de changer de demeure, et de le vouloir, elle se réjouit. Auparavant, bien le voudrait, mais ne le permet pas le désir par lequel veut la divine justice qu'elle se porte vers le châtiment comme au péché elle se porta. Et moi qui, 500 ans et plus, été gisant sous cette peine, tout à l'heure seulement j'ai senti le désir d'un séjour meilleur. Pour cela, tu as senti le tremblement et entendu les pieux esprits par tout le mont rendre gloire à ce Seigneur afin qu'il hâte leur passage là-haut. Ainsi il dit, et comme on se réjouit d'autant plus de boire que plus grande est la soif, je ne saurais dire combien il satisfit la mienne. Et le sage guide, maintenant je vois le filet où ici vous êtes pris, et comme on s'en dégage, pourquoi le tremblement et de quoi vous vous conjouissez? Qu'il te plaise maintenant que je sache qui tu fus. Pourquoi tant de siècles tu as été gisant, je l'ai compris par tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du souverain roi, vengea les blessures d'où sortit le sang vendu par Judas, revêtu du nom le plus durable et le plus honoré, j'étais là célèbre, mais n'ayant pas encore la foi. Tant fut doux le souffle de ma voix, que de Toulouse à Soie m'attira Rome, où je méritais que de Myrte mes tempes fussent ornées. Là encore, on me nomme Stas. Je chantais de Thèbes, puis du grand Achille, mais sous la seconde charge en chemin je tombais. De mon ardeur furent la semence les étincelles de la divine flamme qui m'embrasa et à laquelle se sont allumées 1000. Je parle de l'Énéide, qui me fut une mamelle et une nourrice de poésie. Sans elle, je n'eusse pesé une drachme. Et pour avoir vécu là quand vivait Virgile, je consentirais que d'un soleil plus que je ne dois, fut retardée la fin de mon bannissement. Virgile, à ces paroles, vers moi se tourna, d'un visage qui, en se taisant, me disait « Tais-toi, mais ne peut la vertu tout ce qu'elle veut. » Le rire et les pleurs suivent tellement la passion qui les excite qu'ils n'obéissent point au vouloir et moins encore chez les plus vrais. Je souris donc comme celui qui fait signe, sur quoi l'ombre se tut et me regarda aux yeux où plus se retrace l'image véritable. Que d'un si grand travail tu recueilles le fruit, dit-il. Pourquoi ton visage m'a-t-il tout à l'heure montré un éclair de rire? Je me trouve ainsi pris d'une et d'autre part, de l'une on me commande de me taire, de l'autre on me conjure de parler, d'où un soupir qui me fait comprendre. Parle, dit mon maître, et ne crains pas de parler. Mais parle et dis-lui ce qu'il demande avec tant de soucis. Moi, donc, Peut-être, antique esprit, t'étonnes-tu du sourire qui m'est échappé. Mais je veux que tu t'étonnes plus encore. Celui-ci, qui en haut guide mes yeux, est ce Virgile, à qui tu dois d'avoir chanté avec éclat les hommes et les dieux. Si tu as cru que mon sourire eût une autre cause, tiens-la pour fausse, et attribue-le à ce que tu as dit de lui. Déjà, il s'inclinait pour baiser les pieds de mon maître, mais celui-ci lui dit « Non, frère, ombre tu es, et tu vois une ombre. » Et lui se relevant, « Tu peux juger de l'ardeur de mon amour pour toi, lorsque, oubliant que nous ne sommes que des formes vaines, je traite les ombres comme des corps réels. » Chant 22e. Déjà derrière nous, l'ange était resté, l'ange qui nous avait acheminé vers le sixième cercle, après avoir effacé de mon front une empreinte, et avec ceux qui à désir ont la justice, il nous avait dit « Beati » et le reste des paroles avec « Sitisiunt » sans ajouter rien autre chose. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, si facilement j'allais que sans aucun travail, je suivais en haut les rapides esprits, quand Virgile commença, un amour qu'enflamme la vertu, enflamme toujours un autre amour pourvu qu'au dehors la flamme paraisse. Ainsi, du moment où parmi nous dans les limbes de l'enfer descendit Juvénal, qui me révéla ton affection, la mienne fut la plus vive qu'on puisse ressentir pour une personne qu'on ne vit jamais. De sorte que courts maintenant me paraîtront ces escaliers. Mais dis-moi, et comme ami, pardonne si par excès de confiance trop je lâche le frein, et comme ami désormais discours avec moi. Comment put l'avarice trouver place en ton sein, soigneusement rempli, comme tu l'étais de toute sagesse? Ces paroles provoquèrent d'abord en Stas un léger rire, puis il répondit « Chacun de tes dires m'est une chère marque d'amour. Véritablement, quelquefois apparaissent des choses qui donnent un faux sujet d'étonnement parce que les choses en sont cachées. Ta demande me montre que tu crois peut-être à cause du cercle où j'étais que je fus avare en l'autre vie. Or, sache que trop fus-je éloigné de l'avarice et cet excès a été puni des milliers de lunaisons. Et n'était que je redressais mon penchant lorsque j'entendis comme en ton courroux tu gourmandes la nature humaine, à quoi ne conduis-tu point, exécrable fin de l'or, la convoitise des mortels? Roulant mon fardeau, je sentirais les joutes douloureuses. Alors je m'aperçus que trop pouvait s'ouvrir les mains pour dépenser, et je me repentis de ce mal comme des autres. Combien ressusciteront la tête rase à cause de l'ignorance qui de ce péché empêche de se repentir vivant et jusqu'au dernier terme? Et sache que la faute directement opposée à une autre sèche avec elle ici sa verdeur. Si donc, pour me purifier, j'ai été parmi ceux qui pleurent l'avarice, par son contraire, ce m'est advenu. Quand tu chantas les armes cruelles, cause de la double tristesse de Jocaste, dit le chantre des bucoliques, par ces chants m'accompagne Clio, il ne paraît pas que fidèle, tu fais encore la foi, sans laquelle point ne suffit de bien faire. S'il est ainsi, quel soleil ou quel flambeau dissipe tellement les ténèbres qu'après tu dirigeas tes voiles à la suite du pêcheur? Et lui dit, toi le premier, tu me conduisis au Parnasse pour me désaltérer dans ces grottes. Toi le premier, après Dieu, tu m'éclairas. Tu as fait comme celui qui va de nuit, projetant derrière soi la lumière, et à lui elle ne sert, mais il instruit ceux qui le suivent. Quand tu as dit « le siècle se renouvelle, la justice revient et le premier âge de l'homme, du ciel descend une race nouvelle, par toi je fus poète, par toi chrétien. » Mais pour que mieux tu discernes ce que je dessine, ma main y apposera les couleurs. Déjà tout le monde était plein de la vraie croyance, semée par les messagers du royaume éternel, et ta parole, que je viens de rappeler, s'accordait avec celle des nouveaux prédicateurs, d'où je pris l'habitude de les visiter. Ensuite, ils me parurent si saints que quand Domitien les persécuta, à leurs pleurs je mêlais mes larmes. Et tant que je fus de là, je les secourus, et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant qu'en mes vers je conduisisse les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur je me cachais d'être chrétien et restais longtemps païen en apparence. Cette tiédeur m'a, plus de 400 ans, retenu dans le quatrième cercle. Toi donc qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, tandis que nous avons encore à monter beaucoup, dis-moi où est notre chère Thérence, Cécilius, Plaute et Varron, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont condamnés et à quelle demeure. Cela, et Perse, et moi, et beaucoup d'autres, répondit mon guide, nous sommes, avec ce grec que les muses allaitèrent plus abondamment qu'aucun autre, dans le premier cercle de l'obscure prison. Bien souvent, nous parlons du mont que ne quittent point celles qui nous ont nourris. Avec nous sont Euripide, Antiphon, Simonide, Agathon et plusieurs autres Grecs qui saignirent leur front de laurier. Là, de ceux que tu as chantés, se voient Antigone, Déiphile et Argia et Ismène, toujours aussi tristes. On y voit celle qui montra Langia. Là est la fille de Tirésias et Thétis et Déidamie avec ses sœurs. Déjà, les deux poètes se taisaient. De nouveau attentifs à regarder autour, hors désormais de la montée et des parois. Et déjà quatre des servantes du jour étaient demeurées en arrière, et la cinquième était au timon, le dirigeant en haut vers la zone ardente quand mon guide. Je crois qu'en suivant le contour du mont, nous devons tourner notre droite vers le bord extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Ainsi, l'accoutumance fut là notre enseignement, et nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance par l'assentiment de cette digne âme, et ils allaient devant et moi seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient l'intelligence de la poésie. Mais tôt rompit le doux discourir un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes chargé de pommes à l'odorat suaves et bonnes. Et comme le sapin de rameau en rameau se rétrécit en s'élevant, ainsi cet arbre en descendant, afin je crois que dessus nul ne monte. Du côté où le chemin était fermé, tombait du roc élevé une eau claire qui se répandait d'en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre et d'au-dedans, à travers le feuillage, une voix cria « De ce fruit vous aurez disette ». Puis elle dit « Plus pensait Marie à ce que les noces furent honorables et complètes, qu'à sa bouche qui maintenant pour vous répond. » Et les antiques Romains se contentèrent d'eau pour boisson, et Daniel méprisa le manger et acquit le savoir. Le premier âge fut beau comme l'or, il rendit par la faim les glands savoureux, et par la soif fit de chaque ruisseau du nectar. Du miel et des sauterelles furent la nourriture de Baptiste dans le désert. Pour cela glorieux est-il et aussi grand que le déclare l'Évangile.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. Radio.
Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Pour les hommes de la Bible, il ne fait pas de doute que Dieu conduit le monde avec sagesse. Et le texte que nous venons de lire est une véritable prédication sur le thème « Mes frères, n'engagez pas vos vies sur de fausses pistes. Dieu seul connaît ce qui est bon pour l'homme. Conformez-vous à l'ordre des choses qu'il a établi depuis les origines du monde. C'est le seul moyen d'être heureux. » Pour donner plus de poids à sa prédication, l'auteur fait parler la sagesse elle-même, comme si elle était une personne. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est qu'un artifice littéraire. Première remarque, la sagesse ne parle pas d'elle toute seule. Elle ne parle d'elle qu'en fonction de Dieu, comme s'ils étaient inséparables. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action. Avant les siècles, j'ai été fondé, sous-entendu par Dieu. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, sous-entendu par Dieu. Lorsque Dieu établissait les fondements de la terre, j'étais là à ses côtés. Donc, entre Dieu et la sagesse, existe une relation de très forte intimité. La foi juive au Dieu unique n'a jamais envisagé un Dieu trinité. Mais il semble bien ici que sans abandonner l'unicité de Dieu, elle pressent qu'au sein même du Dieu un, il y a un mystère de dialogue et de communion. Deuxième remarque, avant. C'est un mot qui revient très souvent dans ce passage. Le message est clair. Il y a là une insistance très forte sur l'antériorité de celle qui se prénomme la sagesse par rapport à toute création. Troisième remarque, la sagesse est auprès de Dieu et elle trouve ses délices auprès de Dieu. Elle est auprès de nous et elle trouve ses délices auprès de nous. On entend là comme un écho du refrain de la Genèse, « Dieu vit que cela était bon ». Et plus encore, au sixième jour, tout de suite après la création de l'homme, qui était comme le couronnement de toute son œuvre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, c'était très bon. Du coup, ce texte nous révèle un aspect particulier et éminemment positif de la foi d'Israël. La sagesse éternelle a présidé à toute l'œuvre de création. L'insistance du texte est très forte là-dessus. On peut en déduire deux choses, il me semble. Premièrement, depuis l'aube du monde, l'humanité et le cosmos baignent dans la sagesse de Dieu. Deuxièmement, le monde créé n'est donc pas désordonné, puisque la sagesse en est le maître d'œuvre. Cela devrait nous engager à ne jamais perdre confiance. Enfin, c'est bien la folie de la foi d'oser croire que Dieu est sans cesse présent à la vie des hommes, et plus encore, qu'il trouve ses délices en notre compagnie. C'est une folie, mais le fait est là. Si Dieu continue inlassablement de proposer son alliance d'amour, c'est bien parce qu'il trouve jour après jour ses délices avec les fils des hommes. Reste une question. Pourquoi ce texte nous est-il proposé pour la fête de la Trinité, Pas une fois on entend parler de Trinité dans ces lignes, ni même des mots Père, Fils et Esprit. En ce qui concerne le livre des Proverbes, cela n'a rien d'étonnant, puisque quand il a été écrit, il n'était pas question de Trinité. Non seulement le mot n'existait pas, mais l'idée même de Trinité n'effleurait personne. Au début, pour le peuple élu, la première urgence, c'était de s'attacher au Dieu unique, d'où la lutte farouche de tous les prophètes contre l'idolâtrie et le polythéisme, parce que la vocation de ce peuple est précisément d'être le témoin du Dieu unique. N'oublions pas cette phrase du livre du Deutéronome. « À toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. » Première étape, donc, découvrir que Dieu est un. Pas question de parler de plusieurs personnes divines. Plus tard seulement, les croyants apprendront que ce Dieu unique n'est pas pour autant solitaire, il est Trinité. Ce mystère de la vie trinitaire n'a commencé à être deviné que dans la méditation du Nouveau Testament, après la résurrection du Christ. À ce moment-là, quand les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament ont commencé à entrevoir ce mystère, ils se sont mis à scruter les Écritures. Et ils ont donc fait ce qu'on appelle une relecture. Et en particulier, ils ont relu ces lignes que nous venons d'entendre et qui parlent de la sagesse de Dieu. Et ils y ont lu en filigrane la personne du Christ. Saint Jean, par exemple, écrira « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. » Et vous savez combien cette expression en grec dit une communion très profonde, un dialogue d'amour ininterrompu. Le livre des Proverbes, lui, n'en était pas encore là. Psaume 8. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, peut-être sommes-nous dans le cadre d'une célébration de nuit. Hypothèse tout à fait vraisemblable, puisque le prophète Isaïe fait parfois allusion à des célébrations nocturnes. Par exemple, quand il dit « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux ». C'est au chapitre 30 d'Isaïe. Imaginons donc que nous sommes un soir d'été à Jérusalem, au cours d'un pèlerinage, une célébration à la belle étoile. Nous n'avons pas lu ce psaume en entier, mais si nous nous reportons à notre Bible, nous verrons que la première et la dernière phrase sont exactement identiques, je vous les donne. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Donc, pas besoin de chercher plus loin le thème de ce psaume. C'est une hymne à la grandeur de Dieu. Et le nom employé pour Dieu ici, c'est une fois de plus le nom de l'Alliance. Les fameuses quatre lettres, YHVH, le nom très saint qu'on ne prononce jamais. C'est donc le peuple de l'Alliance qui s'exprime ici. Je reviens à cette phrase qui est répétée au début et à la fin. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. On a donc là une parfaite symétrie. Et elle encadre quoi ? Une méditation sur l'homme. Cette construction est très intéressante. À la fois, l'homme est bien au centre de la création et, en même temps, tout, y compris l'homme, est rapporté à Dieu. Lui seul agit et l'homme contemple. Tout est ouvrage des doigts de Dieu, tout est œuvre de ses mains. Tu fixas les étoiles, tu penses à l'homme, tu en prends souci, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. La couronne de l'homme, c'est le cosmos justement. Et ce n'est certainement pas un hasard si le psaume est construit de telle manière que l'énumération des œuvres créées par Dieu encadre l'homme, lui faisant comme une couronne. Si on reprend la structure globale de ce psaume, il se présente comme des cercles concentriques. au centre l'homme, comme je disais. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Et puis un premier cercle, la création. De part et d'autre, des versets concernant l'homme. D'un côté, le ciel étoilé et la lune. De l'autre, tous les êtres vivants, troupeaux, bêtes sauvages, oiseaux, poissons. Puis, deuxième cercle concentrique, la fameuse phrase répétée. L'homme contemple le vrai roi de la création, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. La royauté de Dieu est dite déjà par ce mot « grand », un mot du langage de cour qui dit la puissance du roi vainqueur. Et cette royauté, Dieu ne la garde pas jalousement pour lui, puisqu'il couronne l'homme à son tour. L'homme aussi a droit à un vocabulaire royal. L'homme est, je cite, à peine moindre qu'un dieu. Il est couronné et toutes choses sont à ses pieds. Et là, il faut voir l'image d'un trône royal. Les sujets se prosternent en bas des marches. Pour dire la même chose, le livre de la Genèse avait raconté la création de l'homme comme intervenant en dernier, après toutes les autres choses, après tous les autres vivants, pour bien montrer que l'homme était au sommet. Et puis le livre de la Genèse encore avait montré l'homme donnant un nom à toutes les créatures, ce qui est un signe de supériorité, de maîtrise. Dans la création, la vocation de l'homme est bien d'être le roi de la création. Au premier couple humain, Dieu avait dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Je reviens sur la phrase, la première « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci? Belle manière de dire la présence de Dieu auprès de l'homme, sa sollicitude. C'est dire que la Bible est un livre heureux. Tout ce psaume respire la joie de vivre, la joie devant la splendeur de Dieu et aussi devant la splendeur de l'homme. Ce roi humain de la création se soumet à son tour, à celui qui en est le vrai maître. Il reconnaît sa petitesse, il reconnaît qu'il doit tout à son Créateur. Mais il peut bien arriver dans nos vies des jours où cette présence de Dieu auprès de l'homme sera ressentie comme pesante. C'est ce qui arrive à Job, vous vous souvenez, un jour de grande souffrance. Il était un grand croyant, un priant, et il connaissait ce psaume par cœur, très certainement. Eh bien, un jour, dans son désespoir, il en arrive à regretter d'avoir chanté ce psaume avec tant d'enthousiasme quand tout allait bien. Et il va jusqu'à dire « Mais laisse-moi, quand cesseras-tu de m'épier, espion de l'homme? Qu'est-ce qu'un mortel pour fixer sur lui ton attention ?» Ce jour-là, sa foi a bien failli basculer. Et certains d'entre nous, trop éprouvés, connaissent ce vertige. Mais pour eux, comme pour nous tous, comme pour Job, Dieu veille et continue, quoi qu'il arrive, à prendre souci de l'homme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous sommes à Rome, au temps de l'empereur Néron, en l'an 57 ou 58 de notre ère. La communauté chrétienne est composée d'anciens juifs et d'anciens païens. Or, la grande question qui se pose, comme dans beaucoup des premières communautés, est la suivante. Puisque Dieu a choisi le peuple juif pour annoncer le salut au monde, puisque Jésus, le Messie, était juif, ne devrait-on pas demander aux anciens païens de devenir juifs avant de devenir chrétiens ? Concrètement, ne devrait-on pas leur imposer la circoncision et toutes les pratiques juives ? Le raisonnement de Paul est le suivant. Vous, chrétiens, quel que soit votre passé, vous êtes tous égaux devant le salut, car c'est le Christ qui vous sauve et lui seul. Bien sûr, les Juifs n'avaient pas attendu les chrétiens pour savoir que c'est la foi qui sauve et non les mérites de l'homme. Mais certains chrétiens d'origine juive revendiquaient le privilège d'être l'unique peuple de l'Alliance. Ils sont, eux, les descendants d'Abraham. Les païens ne peuvent pas en dire autant. À ceci, Paul a répondu au chapitre 4 en faisant remarquer qu'Abraham a été déclaré juste par Dieu bien avant d'être circoncis. Car Abraham était un païen quand il a entendu l'appel de Dieu. Et c'est la confiance et elle seule qui l'a inspiré quand il a obéi. Dieu lui a dit « Va pour toi, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai ». Et la suite du texte dit simplement « Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit ». C'est au chapitre 12 de la Genèse. Et un peu plus loin, le même livre de la Genèse dit encore « Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela » le Seigneur le considéra comme juste. C'est au chapitre 15. Et saint Paul ici se réfère évidemment à cette histoire exemplaire d'Abraham. Dans ce chapitre de la lettre aux Romains, il cite 4 fois cette phrase de la Genèse, ce qui veut dire qu'il y a là pour lui un argument de poids. Ailleurs, dans la lettre aux Galates, il le dit expressément. Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Ce qui revient à dire, Abraham le croyant est le père de tous les croyants, qu'ils soient ou non circoncis. Donc pas question de se battre entre chrétiens sur ce terrain. Voilà qui explique la première phrase de notre texte d'aujourd'hui. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Et pour bien faire entendre que le salut est pur don gratuit de Dieu, et que seul l'abandon confiant de la foi nous est demandé, Paul répète l'expression « par la foi ». Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et les verbes sont au passé. Justifiés, nous le sommes tous depuis la mort et la résurrection du Christ, c'est chose faite. Désormais, nous vivons dans l'intimité de Dieu, ce que Paul appelle le monde de la grâce. L'émerveillement de saint Paul, c'est que par pure grâce de Dieu, nous participons à la justice du Christ. Par notre foi en lui et par elle seule, nous sommes réintégrés dans l'alliance de Dieu, dans la communion trinitaire. Ici, nous ne lisons pas le mot « trinité », mais quand Paul parle du monde de la grâce, c'est bien de cela qu'il est question. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que Paul, contemplant le mystère de Dieu, le fait spontanément en termes trinitaires, en particulier dans ces 2 phrases. « Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. Paul parle de détresse que traversent ses lecteurs. Mais la détresse elle-même peut être chemin vers Dieu. Il nous dit « la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. » L'espérance, c'est une vertu de pauvre. Elle est au bout d'un long chemin de dépouillement. Elle est au-delà de nos découragements, de nos « quand même ». Elle naît quand nous sommes complètement remis à la confiance en Dieu, quand nous avons acquis la sérénité, parce que notre œuvre, au fond, n'est pas la nôtre, mais la sienne. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Au fait, l'amour de Dieu, on pourrait évidemment se demander le sens de la préposition « de » ici. Est-ce l'amour que Dieu nous porte ou l'amour que nous portons à Dieu ? Et c'est une mauvaise question. L'Esprit Saint répand en nos cœurs l'amour même que Dieu porte à l'humanité. Et à notre tour, nous devenons capables d'aimer. Et ainsi, peu à peu, nous entrons davantage dans la communion trinitaire dès maintenant. C'est cela que Paul appelle avoir part à la gloire de Dieu. Notre orgueil, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Avant de nous aventurer dans ce texte de saint Jean, il faut plus que jamais nous habiller le cœur, comme disait saint Exupéry. En cette dernière soirée de sa vie terrestre, Jésus n'emploie pas le mot « Trinité », mais il fait beaucoup plus et beaucoup mieux. Il nous introduit dans ce grand mystère, dans l'intimité même de la Trinité. Mais pour percevoir ce mystère d'amour et de communion, il faudrait que nous lui soyons accordés, que nous soyons nous-mêmes feu brûlant d'amour et de communion. Or, nous ressemblons plutôt à du bois trop vert, mis au contact du feu. Bien difficile de le faire prendre. Ce que Jésus nous dit ici, entre autres choses, c'est que l'Esprit de Dieu, le feu, va venir en nous. Il va s'installer au cœur du bois vert. Nous sommes encore dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples, au soir du Jeudi Saint. Jésus fait ses adieux et il prépare ses disciples aux événements qui vont suivre. Il révèle le maximum de son mystère. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. L'histoire de l'humanité, comme toute histoire humaine, est celle d'un long cheminement. Dieu accompagne l'humanité dans sa longue marche. Et tout au long de l'histoire biblique, Dieu s'est révélé progressivement à son peuple. Ce n'est que peu à peu que le peuple élu a abandonné ses croyances spontanées pour découvrir toujours un peu mieux le vrai visage de Dieu. Et ce long chemin de découverte de Dieu n'est pas encore terminé. Il n'est jamais terminé. Il continuera jusqu'à l'accomplissement du projet de Dieu. Tout au long de ce cheminement, l'Esprit de vérité nous accompagne pour nous guider vers la vérité tout entière. La vérité semble bien être l'un des maîtres mots de ce texte. À en croire ce que nous lisons, la vérité est un but et non pas un acquis. Cela devrait nous interdire de nous disputer sur des questions de théologie, puisqu'aucun de nous ne peut prétendre posséder la vérité tout entière. D'autre part, elle n'est pas d'ordre intellectuel, elle n'est pas un savoir, puisque dans le même évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la vérité ». Alors nous comprenons pourquoi dans le texte d'aujourd'hui, il emploie plusieurs fois le verbe « connaître ». Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. En langage biblique, on sait bien que connaître désigne une expérience de vie et non pas un savoir, à tel point que ce mot connaître est celui qui est employé pour l'union conjugale. L'expérience de l'amour ne s'explique pas, on peut seulement en vivre et s'en émerveiller. L'Esprit va habiter en nous, nous pénétrer, nous guider vers le Christ qui est la vérité. Alors, peu à peu, la révélation du mystère de Dieu ne nous sera plus extérieure. Nous en aurons la perception intime. Là encore, j'entends un écho des promesses des prophètes. Je cite, « Ils me connaîtront tous, du plus grand au plus petit. » Je reviens sur la phrase, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. » Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas la force de les porter ? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit-Saint, semble-t-il. Cela veut dire que si nous désirons vraiment pénétrer un peu plus dans la connaissance des mystères de Dieu, il nous faut résolument invoquer l'Esprit-Saint. Dernière remarque, ce qui va venir, il vous le fera connaître. Ce qui va venir, n'attendons pas des révélations à la manière des voyants. Il s'agit de beaucoup plus grand. C'est le grand projet de Dieu qui se réalise dans l'histoire humaine. Ce que saint Paul appelle le dessein bienveillant et qui est justement l'entrée de l'humanité tout entière dans la vie intime de la Trinité. Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Il n'est pas question là non plus de nous placer sur un plan intellectuel. Ce ne sont pas les idées de Jésus qu'il va nous faire comprendre, c'est l'expérience même de sa vie qu'il va nous faire revivre à notre tour. Le cheminement même de l'homme Jésus, vécu avec l'Esprit-Saint, devient le nôtre. Les tentations au désert, c'est l'esprit d'amour qui lui permet de les surmonter. C'est encore l'Esprit qui le conduit dans toute sa mission, qui inspire ses paroles et ses actes, qui lui donne l'audace des miracles, jusqu'à la dernière audace de l'abandon total à Gethsémani. C'est cela, la vérité tout entière du Christ, celle vers laquelle nous cheminons à travers l'expérience de nos vies. Et c'est cet esprit qui nous habite désormais et qui nous donne à notre tour toutes les audaces de la mission. On est loin d'un savoir intellectuel. C'est à l'expérience même de l'intimité de Dieu que nous sommes invités. Au fond, quand nous célébrons la fête de la Trinité, nous ne contemplons pas de loin un mystère impénétrable. Nous célébrons déjà la grande fête de la fin des temps, celle de l'entrée de l'humanité dans la maison de Dieu.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.